Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le procès. Demain, nous écouterons de jeunes magistrats, avocats, nous raconter leur premier procès. Mercredi, nous nous interrogerons sur l'usage des nouvelles technologies dans la justice contemporaine et future. Jeudi, c'est le procès de Madame Bovary qui se fera au théâtre, avec le public pour témoin. Et enfin, vendredi, carte blanche cinéma, le procès en 5 extraits de films. De nos frères blessés, le livre de Joseph Andras s'est écrit dans le creux laissé par la vie de Fernand Yvetot. Membre du Parti communiste algérien, soutenant le projet d'indépendance du pays, il prévoit de faire exploser une bombe dans un local de son usine. Il est dénoncé et arrêté avant, il est incarcéré, torturé et une partie du livre suit son procès, aboutissant à sa condamnation à mort. Sous la plume d'Andras, Yvetot condamne, je cite, « aussi bien moralement que politiquement la violence aveugle, celle qui frappe les têtes et les ventres au hasard, mais il ne sera pas entendu. La langue du romancier fait le procès d'une machine d'État qui broie une vie au nom d'un climat houleux. Elle le fait aussi, ce procès, le procès d'un silence et d'un oubli volontaire. Avec ce très beau livre, Andras, né pile 30 ans après le début de la guerre d'Algérie, répond à ce silence et démontre avec force la puissance de la fiction. Il est 14h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Et les nouvelles vagues nous bougent, se déplacent, nous déplacent et parfois laissent des marquants souvenirs. Ce sont les récits de ces moments-là que nous écoutons chaque jour en fin d'émission. Cette semaine, c'est le musicien Balaké Sissoko qui partage. Il raconte pour commencer la première fois qu'il monte sur scène. 1978, il a 10 ans, le président malien de l'époque est dans le public. L'enfant est tremblant, mais l'enfant est doué. Voilà plusieurs semaines qu'il s'entraîne avec son cousin, un ami et des musiciens plus expérimentés qui admirent leur très très jeune talent. Récit et musique vers 14h45. Premier moment d'une semaine thématique consacrée au procès et il ne manque pas. À l'occasion de la journée spéciale que France Culture consacre en partenariat avec le journal La Croix à la nécessité de renouveler le désir de politique à un an des élections présidentielles, nous interrogeons la résistance de ce désir politique en situation d'état d'urgence, mais aussi le procès comme lieu d'affrontement de différentes visions politiques de la société ou encore le rôle de la création et de la dissolution de la Cour de sûreté de l'État sur les pratiques, l'impact de cette création de cette dissolution sur les pratiques juridiques en France. Le juridique, c'est le moyen, le politique, c'est la fin. Voilà ce qu'on peut lire en gras dans le titre d'un article que vous consacrez aux avocats communistes dans la lutte contre la répression de guerre froide. Fin, moyen, justice et politique seront les quatre points cardinaux de l'émission du jour. Bonjour Vanessa Codacini.
Bonjour.
Alors on peut citer votre livre « Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes », les fameux articles que je cite à l'instant. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 en sciences politiques. Bienvenue à vous.
Merci.
Alors, on parle d'usage politique des cadres juridictionnels, avant de donner peut-être une définition plus générale de ce qu'on appelle un procès politique. Est-ce que ces usages politiques intéressent depuis toujours les chercheurs et vous, pourquoi est-ce que ça vous intéressait ?
Alors, c'est un sujet qui intéresse depuis très très longtemps les chercheurs. Moi, ça m'a intéressé parce que j'ai commencé à travailler il y a maintenant plus de 10 ans sur l'affaire Rosenberg, qui est ce couple de juifs communistes américains qui sont accusés d'espionnage au profit de l'URSS, Eisenhower refusent leur grâce et ils sont condamnés à mort et électrocutés en 1953. Et c'est par le biais de cette affaire-là, de ce procès-là, que je me suis interrogée aux usages politiques des procès. C'est-à-dire, dans ce cas-là, comment des individus, et des communistes en particulier, essayaient de se mobiliser pour la vie sauve des époux Rosenberg. Et donc, quelles sont les mobilisations autour de procès ? Et effectivement, j'ai commencé à regarder la littérature sur les procès politiques, puisque c'était ça qui m'intéressait. Et j'ai vu qu'en France, il y avait une pléthore de livres sur l'histoire des procès politiques, sous l'Antiquité, sous l'Inquisition, etc. Mais le procès politique n'était jamais défini. En revanche, aux États-Unis, il y a une pléthore d'ouvrages, de journalistes, d'intellectuels, d'universitaires, sur qu'est-ce qu'un procès politique. Et il y a tout un débat sur comment est-ce qu'on doit définir un procès politique, avec même des choses très curieuses sur est-ce qu'on doit mettre des guillemets sur procès, ou sur politique, ou sur procès politique. Donc voilà, et je suis rentrée dans toutes ces définitions-là, dans tous ces débats-là, et ça m'a passionnée.
Quand on parle de mobilisation, on parle de mobilisation à la fois à l'intérieur du tribunal, qui est là comme lieu physique, comme lieu symbolique, mais aussi à l'extérieur, un procès politique, ça mobilise aussi la société civile ?
Complètement. Quand on parle d'usage politique du procès, il y a deux types d'usage politique. L'usage à l'intérieur du prétoire, par les avocats militants, par les accusés eux-mêmes qui peuvent défendre une cause à l'intérieur du prétoire.
En la formulant
tout à fait, en la formulant, en essayant de décriminaliser, de dépénaliser leur action, en essayant de défendre une cause politique, mais aussi à l'extérieur. Et là, il y a tout un tas de... un répertoire d'actions, en fait, tout à fait typique, hein, autour des procès politiques. Créer un comité de défense, manifester dans la rue, sortir des tracts, des brochures, des livres sur le procès pour le dénoncer et en dénoncer les usages politiques par les élites politiques.
Est-ce que le procès de politiques, qui sont aussi légions, est forcément un procès à enjeu politique?
L'identité politique d'un accusé donne de toute façon, quoi qu'il en soit, tout de suite un caractère politique au procès. Après, est-ce que ce sont toujours des procès à enjeu? Oui, mais ça dépend des enjeux. C'est-à-dire il y a des enjeux, on pourrait dire, plus politiques que d'autres. Et les procès de politiques, d'hommes politiques ou de femmes politiques, c'est plutôt des procès qui doivent se comprendre comme un effet de la compétition politique. Éliminer un de ses opposants dans la campagne électorale.
Ce sera ça l'usage politique
du procès. Ce sera ça l'usage politique du procès. Et ils vont être aussi dénoncés comme des politiques. Mais c'est pas tout à fait la même chose, il me semble, que des procès qui visent des activistes ou des militants ou des terroristes, en tout cas qui sont qualifiés comme tels.
Puisque vous avez travaillé, vous avez plongé dans les débats qui réfléchissent à une bonne définition d'un procès politique, à la fois aux États-Unis, mais j'imagine aussi du coup dans la littérature française, vous arrivez à quoi ?
Alors, j'arrive à... A priori, on ne devrait pas définir ce que c'est un procès politique. Il y a un politiste américain qui s'appelle Ron Christensen et qui écrit en 1974 « Un procès politique, on en reconnaît un dès qu'on le voit ». Donc il y aurait presque quelque chose d'instinctif à reconnaître un procès politique. Seulement, je crois que c'est très important d'essayer de définir le procès politique pour le distinguer du procès ordinaire. Le procès politique, si on veut vraiment le définir, on peut le définir comme le produit de la répression étatique. Le procès politique, c'est un outil pour éliminer une opposition, des militants, un mouvement social. Et donc ça va être une manière de politiser la justice pour éliminer une opposition et la marginaliser.
Et ça se fait forcément dans cette répartition des forces. Ça va forcément être la justice au profit d'un État qui veut réprimer une émergence politique ou un militantisme ou une action.
Tout à fait. Le procès politique, c'est la soumission du judiciaire au politique. C'est l'immixtion du politique dans le judiciaire. C'est une manière de mettre en dépendance les juges qui vont être soumis à des injonctions répressives de la part de l'État.
Et alors, que dit la Constitution ?
La Constitution dit que les magistrats doivent être neutres, impartials et indépendants. Et justement, et je voulais rebondir là-dessus, c'est important aussi de signaler que les termes de procès politique ont un sens particulier. Tous les individus ne vont pas qualifier un procès de politique. Les juges en particulier, je rebondis sur votre question, comme ils veulent défendre leur indépendance, leur neutralité, leur impartialité, ils ne vont jamais qualifier un procès dont ils ont la charge de politique.
Même s'ils subissent des pressions, même s'ils le font dans un climat politique extrêmement tendu, comme on va probablement l'évoquer, même s'ils sont conscients que se jouent là des enjeux politiques et que même leurs décisions en sont souvent le produit, ils vont se refuser à utiliser cette expression-là.
Ils vont se refuser à utiliser cette expression-là parce que ce serait les délégitimer. Ce serait montrer qu'ils sont soumis au pouvoir politique. Mais ce qu'il faut préciser, je crois que c'est important, si on regarde l'histoire de la répression politique, notamment en France, on voit malgré tout que les magistrats peuvent résister à ces injonctions. Par exemple, il y a des acquittements de militants, d'activistes très importants que les gouvernements voulaient faire condamner et les juges s'y opposent. Et on voit souvent que les magistrats du siège, pas du parquet parce que ceux-là ils sont soumis au pouvoir politique, mais les magistrats du siège peuvent être un frein au procès politique, au final.
Est-ce qu'ils ont aussi, eux, des enjeux politiques, par exemple, à réaffirmer leur indépendance, leur autonomie et en faisant cela, pas nécessairement prendre une décision politique, mais prendre une... en faveur d'un militantisme, mais prendre une décision politique en tant qu'elle dit « nous sommes un corps indépendant du corps de l'État ».
Il y a un enjeu politique à dire qu'ils sont indépendants, impartiaux, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, on y reviendra certainement dans la Cour de sûreté de l'État, c'est que les magistrats, ils ont intérêt parfois à ce qu'il y ait des procès politiques.
Pourquoi ?
Parce que ça va être des procès qui vont être médiatisés. Les journaux sont très intéressés par les procès en jeu politique. Et donc, ça va être des grandes affaires. Des affaires qui vont toucher des enjeux liés à la nation, à la sauvegarde de l'État, à la sauvegarde des institutions républicaines. Et donc, les magistrats vont avoir à juger aussi des grandes affaires. Et donc, qui dit grandes affaires, dit grands juges.
Je parlais du tribunal comme lieu symbolique, mais aussi comme lieu physique. Et on évoque toute cette journée aujourd'hui sur France Culture le désir de politique, la place de l'action, de la réflexion politique. Pourquoi est-ce que le tribunal, le procès, est un lieu particulier pour l'expression du politique, pour la vie politique.
Alors c'est ça qui me semble important, c'est que le procès politique, on a toujours tendance à le voir comme le délit d'opinion, l'erreur judiciaire, le coup monté. Mais il me semble que pendant très longtemps, au moins jusqu'à le début des années 80, le procès était aussi un moyen d'expression pour les militants. C'est-à-dire une des manières de politiser une cause à l'intérieur des prétoires. On le voit très bien dans les cas des procès de gauchistes, d'extrême gauche, mais aussi des indépendantistes comme le FLNC. C'est un lieu où peut s'exprimer une parole politique qui va être médiatisée, c'est-à-dire qui va sortir du prétoire. Et à travers des questions pénales, judiciaires, carcérales, on peut réellement politiser des enjeux sociétaux très importants.
Et faire du procès un forum, là où éventuellement l'espace médiatique n'était pas ou n'est pas d'ailleurs aussi ouvert à toutes les voix, ce serait faire de ce procès et de ce tribunal un lieu de médiatisation et d'expression des idées qui ne peuvent pas forcément passer à un
Tout à fait, par la publicisation, par la médiatisation, des activistes peuvent faire passer un message politique qu'ils ne pourraient pas faire passer autrement. Un procès, ça a beaucoup plus d'impact qu'un tract, une brochure ou une manifestation, si elle est évidemment médiatisée, si ce procès est médiatisé.
Et vous parlez pour décrire cela d'un lieu d'affrontement, hein, d'un lieu d'affrontement de différentes visions de la politique au sens de la chose publique. Est-ce que les magistrats, est-ce que les juges ont aussi toute la latitude pour exprimer leur propre vision du monde et leur propre vision politique? Est-ce que c'est l'endroit pour eux?
Absolument pas. Ils ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, dans mon premier livre qui s'appelle Punir les opposants, j'ai travaillé sur les procès qui touchent les membres du Parti communiste français pendant la guerre froide et la guerre d'Algérie. À un moment donné, pendant un procès pendant la guerre froide, un juge a le malheur de dire que les communistes sont des séparatistes. Ce qui est une manière, en fait, de politiser un petit peu l'accusation. Et ça renvoie à un propos du général de Gaulle contre le PCF. Ce magistrat est tout de suite sanctionné. C'est-à-dire, il va y avoir un rapport. Pourquoi a-t-il dit cela? C'est un propos politique. Il ne peut pas le faire. Donc les juges, eux, ne peuvent exprimer d'opinion politique au sein du tribunal.
Alors pourquoi est-ce qu'on peut quand même parler d'un affrontement de différentes visions ?
C'est un affrontement de visions extrêmement opposées, puisqu'un procès politique, c'est un procès engagé par l'État au nom de la sûreté de l'État. Et ce qui est très important, c'est de travailler sur les qualifications pénales. Vous allez être accusé de complot, de trahison, d'espionnage, d'attentat dans le but de porter le massacre ou la dévastation, qui sont des crimes politiques ou des délits politiques. Et tout l'enjeu pour les militants, ça va être de décriminaliser et de politiser ces infractions-là. Et donc il va y avoir un affrontement aussi sur qu'est-ce que c'est une bonne manière de faire de la politique. Est-ce que ce qu'a commis le militant est un crime ou un délit, ou est-ce que c'est un geste d'opposition à l'État qui peut être légitimé. Et là, il y a des affrontements.
Et dans la suite, et coordonnée à cela, qu'est-ce qu'une bonne manière de faire de la politique? Et la question qui suit, c'est qu'est-ce qu'une bonne manière de faire de la justice? C'est-à-dire que très vite se pose cette question-là.
Oui, qu'est-ce que c'est une bonne manière de faire de la justice? C'est très compliqué, et en même temps, il y a des règles. Les libertés publiques, les garanties fondamentales, le droit de la défense, le procès équitable, l'indépendance de la magistrature, tout ça doit constituer une bonne manière, à peu près bonne en tout cas, de rendre et de faire justice. Et on voit très bien que, notamment dans le cadre de la justice d'exception, ces droits-là, en tout cas, sont rognés, limités, affaiblis.
Plusieurs quotidiens parisiens se sont fait l'écho de la prochaine création d'une cour qui pourrait prendre comme appellation Cour de la Sûreté de l'État.
Oui, ces informations paraissent un peu prématurées et on précise ce soir, place Vendôme, qu'il est prévu depuis quelque temps déjà la mise sur pied d'un nouveau tribunal destiné à réprimer les crimes et délits dirigés contre la Sûreté de l'État. Certes, M. Foyer, le garde des Sceaux, a rencontré ce matin des magistrats et des experts, mais les grandes lignes de cette juridiction demeurent encore dans les cartons. Il faut maintenant établir un texte. Ce texte sera examiné par le Conseil d'État, puis par le Conseil des ministres et, s'il y a lieu, déposé devant les chambres. Mais on peut affirmer que l'un des soucis du gouvernement sera de donner un caractère permanent et inamovible à ce tribunal au moment même où les derniers dossiers de l'OAS sont examinés par le tribunal militaire spécial du Fort de l'Est.
Une archive d'un journal Interactualité diffusé le 30 novembre 1962, et cette archive qui dit que bruisse la rumeur selon laquelle la Cour de la Sûreté de l'État, va être créée. Elle est en effet créée en 1963. Vous en faites un pivot de cette possibilité de comprendre, hein, justice d'exception et aussi la manière dont ces procès politiques s'appuient sur ces moments d'exception. Pourquoi? Quelle est cette Cour? À quoi elle sert? Pourquoi est-ce qu'elle prend fin à un moment donné?
Pour moi, la création de la Cour de Sûreté de l'État, c'est un moment extrêmement important dans notre histoire judiciaire, mais aussi dans notre histoire politique. Cette juridiction d'exception-là, elle est voulue par le général de Gaulle à la fin de la guerre d'Algérie pour juger, réprimer très rapidement les membres de l'OAS. Parce qu'il faut savoir que pendant la guerre d'Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie, le général de Gaulle multiplie les juridictions d'exception pour juger les membres de l'OAS. Or, la dernière d'entre elles, qui l'intéresse au plus haut point, la Cour militaire de justice, est invalidée par le Conseil d'État. acte très fort du Conseil d'État qui va dire votre juridiction d'exception est illégale. Et donc, par réaction, fou furieux, le général de Gaulle va décider de créer la Cour de sûreté de l'État. Et celle-là, cette juridiction-là, elle est tout à fait classique. C'est une juridiction politique, voulue par le pouvoir politique, avec des juges soumis au judiciaire, avec un régime carcéral, judiciaire, tout à fait particulier, mais elle a une spécificité. Contrairement à toutes les autres juridictions de l'histoire judiciaire française, elle n'est pas créée par l'exécutif, elle n'est pas créée par le général de Gaulle. Elle est créée par deux lois votées par le Parlement et le Sénat en janvier 63. C'est-à-dire que c'est la première juridiction d'exception en France qui est créée par l'Assemblée nationale, par la représentation nationale. Ce qui a deux effets. Un, ça lui donne une légitimité démocratique, ce qui est très important. Et deuxièmement, et surtout, ça va permettre d'institutionnaliser la juridiction d'exception, de l'intégrer dans l'appareil répressif, l'appareil judiciaire et sécuritaire, et donc de la faire durer dans le temps. Normalement, une juridiction d'exception, c'est 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Celle-ci a duré 18 ans. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire qu'une juridiction d'exception créée pour juger l'extrême droite, l'OAS, finit par juger l'extrême gauche, des manifestants en 68, des Mao dans les années 70, des indépendantistes, et finit par juger Action directe. Donc là, c'est inédit.
Sans que cette cour, dans le temps qui s'écoule, bien après sa création, ne soit remise en question sur sa légitimité justement à juger toutes les autres personnes que vous venez d'énumérer.
Elle a toujours été contestée par la gauche. Toute la gauche en 1963 était contre la création de la Cour de sûreté de l'État. Mais elle n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale, la gauche, donc elle n'a jamais pu la supprimer. Et c'est pour ça que c'est l'une des premières actions de François Mitterrand et de Robert Badinter quand ils arrivent au pouvoir en 1981, la supprimer. Mais pendant 18 ans, les socialistes, les communistes, les centristes et les militants réprimés évidemment avec leurs avocats ont dénié la compétence de la Cour de sûreté de l'État, puisque c'était une juridiction politico-militaire. Les civils étaient jugés par des militaires, mais ils n'ont jamais pu la supprimer. Ils ont essayé, mais ils n'ont jamais pu.
C'était la question, justement, quelle tournure spécifique prennent les procès politiques à l'intérieur de cette Cour ?
C'est des procès, alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment des procès politiques. C'est-à-dire, ce sont des militants, des activistes qui vont être jugés par des juges choisis par le pouvoir central, des juges qui ne sont pas indépendants, et par des militaires de carrière qui étaient au départ proches du général de Gaulle. Donc on a tout à fait une configuration de juridiction d'exception. Or, tous les militants qui vont passer par la Cour de sûreté de l'État vont utiliser le prétoire comme d'une tribune politique. C'est le cas des Mao, qui vont dénoncer la justice capitaliste et bourgeoise, qui vont dénoncer la répression de l'État. C'est aussi le cas des indépendantistes bretons ou corses avec le FLNC, qui vont faire de grands procès politiques à l'intérieur du prétoire et qui vont diffuser des causes quasiment inédites jusque-là. Donc c'est vraiment un lieu, tout à fait une scène d'affrontement tout à fait inédite entre le pouvoir central et ses opposants.
Parce que leur adversaire change, ou en tout cas ils vivent leur adversaire de manière différente. On parlait tout à l'heure d'un affrontement de différentes visions politiques. À l'intérieur de la Cour de sûreté, cet affrontement-là, il est comme peut-être rendu plus aigu.
Il est rendu plus aigu, et d'autant plus que les peines encourues sont beaucoup plus graves. Ça peut aller jusqu'à la peine de mort, jusqu'à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc il y a une gravité des enjeux, une gravité des sanctions aussi. Les militants sont accusés de choses extrêmement graves. Attentats dans le but de porter le massacre et la dévastation, association de malfaiteurs, en fait des choses qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Mais ce qu'il faut dire, et je crois que c'est important, c'est que les activistes étaient finalement assez contents de comparaître devant la Cour de sûreté de l'État, même si les peines étaient plus dures et que les conditions du jugement y étaient terribles puisque c'était des militaires. Parce que ça leur donnait un statut d'opposant.
On a des exemples où, justement, leur, entre guillemets, joie de comparaître dans cette cour-là a fait avancer leur cause, a fait avancer leur, ce pour quoi ils se battaient.
En tout cas, ça a fait avancer la médiatisation de leur cause. Par exemple, les procès maoïstes ont été extrêmement couverts par les médias. C'est aussi le cas des indépendantistes corses et bretons. Les seuls qui n'ont pas bénéficié, mais parce qu'ils ne le voulaient pas, de cette politisation des procès, c'est les espions soviétiques. Il y a beaucoup d'espions, ou en tout cas de gens, d'hommes et de femmes considérés comme des espions, qui ont été jugés par la Cour de sûreté de l'État. Leur procès a été quasiment invisibilisé, alors qu'ils sont plus d'une centaine. Eux n'ont pas fait du prétoire un usage politique et militant.
Quel discours est fait autour de la suppression de cette Cour en 1980 ?
Alors, il y a des débats. C'est-à-dire, Robert Badinter, il va avancer plusieurs arguments. Le premier, c'est la primauté du droit commun sur le droit d'exception. Il faut toujours privilégier le droit commun. D'ailleurs, Robert Badinter et le gouvernement socialiste vont supprimer toutes les lois d'exception. Deuxième argument, l'égalité de toutes et de tous devant la loi et la justice. Puisque la justice d'exception et les juridictions d'exception, c'est une manière d'isoler une partie de la population pour lui réserver un régime.
Et mettre à mal l'égalité, justement.
Tout à fait. Un régime plus dures, plus sévères, plus radicales. Les gardes à vue, par exemple, sous la Cour de sûreté de l'État, en période d'état d'urgence, c'était 15 jours de garde à vue, il faut quand même le dire. Ou des détentions extrêmement longues qui pouvaient être illimitées, etc. etc. Et donc, l'égalité de toutes et de tous devant la loi. Et puis surtout, dernier argument de Robert Badinter, mais d'autres, il faut refuser tout régime d'exception. Robert Badinter dit, quel que soit le crime, même un crime terroriste, il faut que tout le monde soit jugé de la même manière. Donc ça, ce sont les arguments forts de la gauche au pouvoir en 81.
Parmi les éléments qui rendent difficile une définition de l'état d'exception, figurent certainement l'étroite relation qu'il entretient avec la guerre civile, l'insurrection et la résistance. Puisque la guerre civile est le contraire de l'état normal, elle se situe dans une zone d'indécidabilité par rapport à l'état d'exception, qui est la réponse immédiate du pouvoir d'État aux conflits internes les plus extrêmes. Au cours du XXe siècle, on a pu assister à un phénomène paradoxal qui a été judicieusement défini comme une « guerre civile légale ». Le totalitarisme moderne peut être défini comme l'instauration par l'état d'exception d'une guerre civile légale, qui permet l'élimination physique non seulement des adversaires politiques, mais de catégories entières de citoyens qui, pour une raison ou pour une autre, semblent non intégrables dans le système politique. Dès lors, la création volontaire d'un état d'urgence permanent, même s'il n'est pas déclaré au sens technique, est devenue l'une des pratiques essentielles des États contemporains, y compris de ceux qu'on appelle démocratiques. Devant l'irrésistible progression de ce qui a été défini comme une guerre civile mondiale, l'état d'exception tend toujours plus à se présenter comme le paradigme de gouvernement dominant dans la politique contemporaine. Ce passage d'une mesure provisoire à exceptionnelle à une technique de gouvernement menace de transformer radicalement, et a déjà en fait sensiblement transformé, la structure et le sens de la distinction traditionnelle entre les différentes sortes de constitutions. L'état d'exception se présente dans cette perspective comme un seuil d'indétermination entre démocratie et absolutisme.
On entend ici dans la voix de Romain de Bec-de-Lièvre un extrait du livre de Giorgio Agamben, État d'exception, paru en 2003, d'une part parce que ça nous permet d'approfondir ce que vous disiez à l'instant sur les mesures d'exception, état d'exception, mais aussi parce que c'est un mot que vous utilisez vous aussi pour le titre de votre livre, Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes. C'est ce mot exception, ça vous permet de faire une lignée avec la pensée d'Agamben?
Oui, alors j'apprécie beaucoup les travaux de Giorgio Agamben que je discute un petit peu dans l'introduction de mon livre parce que il me semble qu'il vaut mieux travailler sur des dispositifs d'exception que sur l'état d'exception. Évidemment, c'est très important l'état d'exception, mais on a du mal à le définir, on ne voit pas très bien ce que c'est. Et cette expression d'état d'exception permanent, ça fait un peu chape de plomb qui s'abat sur les individus. Or, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que malgré tout, il y a des résistances, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais les individus ont quand même une marge de manœuvre dans les états d'exception. Ils peuvent encore manifester, on le voit aujourd'hui.
Et puis les dispositifs, c'est tangible. C'est-à-dire qu'il y a des choses à décrire.
Il y a des choses à décrire. Et puis aussi, ce qui est important, c'est des dispositifs d'exception qui deviennent permanents. C'est le cas de l'état d'urgence aujourd'hui. L'état d'urgence, qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire que c'est un état d'exception, mais c'est aussi un dispositif d'exception pour annihiler une contestation politique, mais pour aussi le rendre pérenne. Et ce qui est important de noter, c'est que l'état d'urgence qu'on vit aujourd'hui va passer dans le droit commun avec des lois. Et donc, ça ne va plus tellement être un état d'exception, ça va être du droit commun d'exception. C'est-à-dire une exception qui est banalisée, normalisé, mis dans le droit commun.
Ce qui est quand même assez intéressant de discuter avec Agamben, c'est le passage de ces mesures d'exception dans le droit, dans l'état de droit. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les exemples qu'on a décrits et que vous avez décrits dans vos différents livres qui peuvent attester de la manière dont ces dispositifs pris dans certaines conditions, dans des conditions de guerre, demeurent dans le droit en temps entre guillemets de paix?
Oui, alors c'est le cas de la Cour de sûreté de l'État, par exemple, prise à la fin de la guerre d'Algérie, créée pendant l'état d'urgence, dans l'urgence, puisque les députés n'étaient pas tellement contents, donc on a appliqué le 49-3, on est allé, donc voyez, en urgence, pendant l'état d'urgence, et qui a duré 18 ans. L'intérêt du pouvoir central de rendre permanent des dispositifs d'exception, c'est de pouvoir les remobiliser contre d'autres cibles. C'est-à-dire qu'au début, on voit très bien que pour justifier l'exception, on va dire qu'il y a un ennemi intérieur très précis, une cible, et progressivement, en réalité, très rapidement, c'est d'autres cibles qui vont être touchées. C'est le cas, par exemple, de ce qui s'est passé pendant l'état d'urgence, où on a vu des militants écologistes assignés à résidence. Au final, c'est une mesure prise contre des auteurs d'attentats, des complices ou des potentiels djihadistes qui s'est très vite appliqué à des militants politiques.
Et ça, c'est une règle, ce qu'il faut entendre, hein, ce que développe Agamben, à savoir que de manière systématique, ce qui est pris en état d'exception, en état d'urgence, finira par être appliqué à quelqu'un d'autre et à entrer dans l'état de droit. C'est quelque chose qu'on observe systématiquement.
Tout à fait. C'est une dérive tout à fait traditionnelle des états de guerre, des états de crise, hein, des moments de très forte conflictualité politique et sociale. Des dispositions prises dans ces moments-là vont rester, vont laisser des traces. Alors peut-être pas de la même manière. Par exemple, j'ai essayé de montrer que la Cour de sûreté de l'État, finalement, c'est un filtre entre la guerre d'Algérie et puis les temps ordinaires. Par exemple, je donne un tout petit exemple, la plupart des tribunaux d'exception pris en contexte de guerre ou de crise ne disposent pas de recours. On ne peut pas se pourvoir en cassation et parfois on ne peut même pas recevoir la grâce présidentielle. La Cour de sûreté de l'État réintroduit la possibilité de se pourvoir en cassation. Donc c'est un petit détail, mais qui va permettre qu'elle soit acceptée. Et tout l'enjeu pour les gouvernements, pour les pouvoirs publics, c'est de favoriser l'acceptabilité de l'exception. Et donc on va faire des concessions à la marge pour pouvoir un peu donner satisfaction à une opinion publique plutôt accusatrice et dénonciatrice.
Et alors là, parce que forcément, à quoi peuvent répondre certains citoyens ou même des partis politiques, il y a une situation exceptionnelle, elle est dangereuse, elle est tendue, il faut une réponse ou des dispositifs exceptionnels. Ce à quoi on peut répondre quoi ? Qu'il y a un état de droit et qu'il y a un droit commun qui peut faire l'affaire ?
Oui, parce que effectivement, je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs arguments types. Alors évidemment, il y a un ennemi intérieur, il y a un péril imminent, etc. Et puis l'argument va être de dire notre appareil judiciaire, notre appareil répressif n'est pas suffisant. Le droit commun n'est pas suffisant. C'est un argument type. Et en fait, on peut aller très loin comme ça. À force de dire ça, on peut multiplier les dispositifs d'exception. Et c'est le cas de l'antiterrorisme. Puisque depuis le milieu des années 80, on a une vingtaine de législations antiterroristes qui ont été mobilisées par le pouvoir central, précisément au nom du fait que le droit commun ne suffisait plus. Et donc on a créé ce droit commun d'exception qui est l'antiterrorisme. Mais on peut effectivement arguer du fait que le droit commun suffit déjà, est largement assez répressif pour pouvoir permettre toutes sortes de répressions, même antiterroristes.
Ça veut dire qu'on observe une courbe qui, sans se démentir, va vers de plus en plus de répression, et de plus en plus de dispositifs répressifs dans la justice française.
Oui, il y a de plus en plus d'exceptions, en réalité, qui se normalisent, qui se banalisent. La répression a toujours existé. La répression politique, même contre des militants, par exemple, elle existe toujours, elle a toujours existé, mais elle prend des formes nouvelles. Aujourd'hui, ce qu'on voit très bien, et c'est le cas de Nuit Debout par exemple, que la répression policière, elle se fait de plus en plus importante et intense. Et on voit aussi que la répression, donc, elle passe par l'administration. Qui a le pouvoir aujourd'hui dans l'antiterrorisme ? C'est plutôt les juges. C'est l'administration, c'est le préfet, c'est la possibilité de perquisitionner, c'est la possibilité d'assigner à résidence. Donc on voit que la répression, elle s'intensifie, mais elle change de nature. Ce ne sont pas les mêmes agents qui ont le pouvoir. Les renseignements généraux s'y prennent de plus en plus d'importance dans l'antiterrorisme, puisqu'il faut profiler, il faut ficher, surveiller, compter, filtrer. Et donc on voit très bien que le rapport des institutions répressives change. Les juges sont progressivement dévalués dans la répression. On leur accorde moins d'importance dans la répression aujourd'hui, même s'il y a toujours évidemment de multiples procédures judiciaires et des procès en cours.
Alors justement, quel est votre regard sur, on fait aujourd'hui à France Culture un état des lieux de la possibilité d'un désir politique renouvelé à un an des présidentielles, de la manière dont ça peut agiter ou non la société civile de retrouver ce désir politique. Quelle est la résistance de ce désir politique dans un état, de quel bord que ce soit d'ailleurs, hein, vous avez évoqué Nuit Debout, mais il n'y a pas que Nuit Debout qui a du désir politique. quelle est sa résistance dans un état d'urgence prolongé, pour ne pas dire permanent, mais en tout cas prolongé pour l'instant.
Il y a toujours des résistances dans les états d'exception. Évidemment dans l'état ordinaire, mais dans les états d'exception aussi. Et je crois que l'état d'urgence et ses résistances montrent ce désir de politique. Je crois que l'une des grandes victoires des citoyennes et des citoyens du mouvement démocratique aujourd'hui a été finalement l'abandon de la déchéance de nationalité, par exemple. Et l'abandon de la constitutionnalisation de l'état d'urgence. Là, les oppositions étaient extrêmement fortes et le gouvernement est obligé de lâcher sur quelque chose dont on a vu l'horreur, en fait, des discours qui ont pu être prononcés. Et là, les citoyens ont gagné, les citoyennes ont gagné. Et donc, je crois qu'il y a toujours un désir de politique. Et ce qui me semble important aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, et ça rejoint un peu notre propos sur les procès politiques, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté de politiser la répression. c'est-à-dire de ne pas se laisser faire, parce que ce qu'on voit très bien et ce que j'étudie moi depuis plusieurs années, c'est la dépolitisation du militantisme par les tribunaux. On va considérer les militants et les activistes comme des criminels ou des délinquants de droit commun. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il commence à y avoir, en tout cas, j'ai quelques échos, comme quoi des militants et des avocats vont résister à cette dépolitisation du militantisme. Donc là, il y a un désir de réutiliser la répression à des fins politiques.
Et en remettant justement la politique, y compris dans les procès, même quand ils sont expédiés, c'est-à-dire de redire combien certaines actions sont faites au nom d'une politique, dans une action politique, et repolitiser le moment de la pénalisation.
Oui, mais vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que c'est très difficile. Comment vous voulez politiser votre action dans le cadre d'un procès en comparution immédiate ou en flagrant délit ? Très rapidement, devant un tribunal correctionnel, en 10 minutes, j'exagère. Mais on n'est plus dans le cadre de grands procès politiques. C'est très difficile aujourd'hui, à la fois pour les militants, parce que parfois aussi, il faut le dire, ils ont du mal à trouver des avocats qui veulent bien mettre en œuvre une défense politique, mais aussi pour les avocats. Il faut que la défense politique, telle qu'elle s'exprimait avant, change. Il faut trouver d'autres moyens de repolitiser la question de la répression et de l'utilisation de la violence policière ou de la violence judiciaire contre des militants.
Parce qu'on voit bien comment, dans un procès politique de grande ampleur, tels qu'on les a décrits tout à l'heure, peuvent s'exprimer justement des points de vue politiques, des visions de la société. Mmh. Mais en effet, dans des micro-procès ou dans des procès minutes ou dans des comparutions immédiates, d'un seul coup, y compris la médiatisation dont on parlait tout à l'heure et dont on disait qu'elle était un levier important, ne peut pas exister.
Non, c'est ça. Et je crois que là aussi, ça c'est tout à fait voulu de la part des agents de l'État, de la part du gouvernement qui veut précisément éviter les procès politiques. Ça, c'est tout à fait traditionnel. Ils ont toujours eu peur des procès politiques et aujourd'hui, les formes prises par la répression empêchent justement la tenue de procès politiques. Et donc, il faut trouver d'autres moyens de politiser la répression. C'est pareil, on peut citer le collectif d'avocats de Nuit Debout, par exemple, qui essaie de faire tout un travail là-dessus, même si c'est compliqué, sans procès. En tout cas, sans grand procès.
Avec quelle méthode ?
Eh ben, en publiant sur Internet, en appelant aux dents, en disant qu'ils vont défendre les militants et, je pense, en politisant la répression.
France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richeux. Now they put me in this jailhouse 20 long years today, and it's driving me crazy. I've got 30 more years to stay. The jailhouse, boys, a lonesome place, especially when that turnkey slams the door in your face. Now they send me up for blackmail, and I can't even sign my name. Some dirty rat pulled his job, and I've got to bear the blame. I even give my last dollar to those with a begging hand. Then bad luck passed all the crooks, and I had to be that fallen man. Boy, I've been laying in this death cell, writing my time upside the wall. When I had plenty of money, I had friends. Now I'm in trouble, ain't got a friend at all. Boys, it's a pity, but I sure can't understand. They say the judge is for justice and still he frame an innocent man. In the cell 20 long years ago, some poor men lived their time out, and some never lives to go.
Le procès s'est donc déroulé dans cette atmosphère de lynchage, au point que j'avais dit un jour où la salle m'interrompait, J'avais demandé au président Renard, Monsieur le Président, je vous demande, est-ce que je suis ici dans une audience de justice ou un meeting d'assassinat? Nous avions affaire à des abrutis. Bon. Pour eux, leur vision du monde était une vision très schématique. Je ne pouvais être qu'un mercenaire et un traître. Mes clients et amis ne pouvaient être que de vulgaires assassins et des primates, comme ils le disaient. Donc, ils étaient incapables de nous comprendre. Mais nous étions capables de leur comprendre, de voir comment fonctionnait leur petit cerveau. Et à ce moment-là, il était facile, quand je sentais l'atmosphère se calmer un peu trop, de me retourner avec arrogance. Alors là, j'entendais des bruits dans la salle. Et je voulais demander au président, Monsieur le Président, est-ce que nous sommes ici dans un procès ordinaire ou un meeting d'assassinat? Ou bien quand les gens criaient le chinois, dire, Monsieur le Président, devrais-je dire à ces gens que pendant que leurs ancêtres bouffaient des glands dans la forêt, les biens construisaient des palais? Le problème n'était pas donc de convaincre, en faisant guili-guili, comme les avocats de gauche nous le conseillaient, les imbéciles assassins qui nous jugeaient, mais au contraire en les provoquant, de provoquer des incidents qui amènent les gens à Paris, à Londres, à Bruxelles, au Caire à en parler.
Jacques Vergès, un extrait de l'avocat de la terreur, il évoque le procès de Jamila Bouhired. Je disais tout à l'heure que les quatre points cardinaux de la discussion, ce seraient le juridique, le politique, la fin et les moyens. On pourrait rajouter la provocation. Comment est-ce que vous réagissez à cet extrait de ce film-là?
Alors c'est tout à fait typique de Jacques Vergès. Il y a une longue tradition en France de défense politique par les avocats, c'est-à-dire des avocats qui vont politiser la cause de leurs clients dans les prétoires. On pourrait remonter aux années 30, même aux années 20, au sein du mouvement communiste français. Il y a de grands avocats comme Joé Norman, par exemple, qui se sont formés dans des associations juridiques internationales, qui ont pris part à la résistance judiciaire sous l'occupation et qui vont politiser énormément de procès pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Et Jacques Vergès, d'ailleurs, il parle de la gauche, hein, qui dit qu'il faut faire guili-guili. Jacques Vergès vient de cette gauche guili-guili, puisque, en fait, il a été formé au sein du mouvement communiste français, ce qu'il a tendance à oublier, enfin, en tout cas, dans ses écrits, tous ses écrits, il a été formé à la défense politique communiste, c'est-à-dire à la manière de politiser une cause dans les prétoires. Sauf que pendant la guerre d'Algérie, précisément au moment du procès de Jamila Bouhired en 1957, il va radicaliser la défense politique communiste, il va la subvertir. Il va la rendre encore plus offensive. C'est ce qu'il appelle l'offensive judiciaire ou la défense de rupture, qui est en réalité la même chose que la défense politique communiste, donc politiser la répression, politiser le prétoire, faire du prétoire une tribune politique. Mais ce qui va intéresser Jacques Vergès, c'est de provoquer le scandale. Ce qu'il veut, et c'est souvent ses termes, hein, il veut faire des procès monstres, c'est-à-dire des procès extrêmement médiatisés, très publicisés, et qui vont être finalement le prolongement de la guerre au sein du prétoire.
Mais en même temps, un procès monstre, le propre du monstre, c'est qu'à un moment donné, il échappe. C'est-à-dire qu'en travaillant à une médiatisation toujours plus forte dans un moment ou dans une atmosphère, hein, d'ailleurs, qu'il décrit et qu'il était, explosive au sens à la fois concret et symbolique du terme, est-ce qu'on maîtrise la manière dont cela va être médiatisé? Est-ce qu'on maîtrise la manière dont l'opinion publique, les organes de presse vont s'emparer de ces procès monstres?
Ça dépend. Par exemple, dans le cas du Parti communiste français, les avocats communistes pouvaient tout à fait contrôler la médiatisation, puisque c'était les dirigeants du parti qui décidaient ce qui se disait au sein du procès et dans les journaux communistes. Par exemple, les grands procès communistes de la guerre froide, finalement, ne sont médiatisés quasiment que par les journaux communistes.
Donc là, le contrôle est total.
Le contrôle est total. Dans le cas des avocats anticolonialistes qui partent pendant la guerre d'Algérie, ils ont énormément de réseaux en métropole, dans les réseaux comme France Observateur, L'Express, Le Monde. Et donc, ils peuvent, par des extraits de plaidoirie, par exemple, par des extraits de procès, ils peuvent essayer un peu d'influencer la publicisation, la médiatisation. Par contre, en ce qu'on appelle l'opinion publique, avec des guillemets, hein, puisque c'est un terme très général, c'est impossible. Mais par exemple, pendant la guerre d'Algérie, les avocats anticolonialistes savaient qu'ils avaient, entre guillemets, l'opinion qui était contre eux. Et il y a un coût très fort à défendre politiquement des clients. Pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès, mais évidemment tous les autres, hein, ont été réprimés ou menacés de répression. Ils avaient même une fiche Y à la préfecture de police de Paris. On parle des fiches aujourd'hui des terroristes, mais les avocats avaient des fiches. Ils pouvaient être internés dans des camps d'internement, réprimés, poursuivis. Et certains ont été tués, soit par les services secrets français, soit par l'OAS pendant la guerre d'Algérie. Donc il y a un sacré coût à défendre politiquement des clients.
Est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire avec des procès contemporains? Est-ce qu'il y a des des procès monstres qui sont aujourd'hui, qu'on peut vivre et observer aujourd'hui et qui ont des enjeux politiques aussi forts, aussi hauts?
En France, précisément pas. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des petits procès au tribunal correctionnel. Le dernier grand procès en France politique, il y en a deux, ce serait le procès en appel de Carlos, qui s'est déroulé à la cour d'assises spécialement composée, et le procès d'Ivan Colonna, lui aussi à la cour d'assises spécialement composée. Mais on peut penser au procès des lanceurs d'alerte, en ce moment à LuxLeaks, où là on voit très bien qu'il y a des enjeux politiques très forts hein, autour de qu'est-ce que c'est un lanceur d'alerte, comment dénoncer des secrets d'État qui devraient intéresser les citoyens. Et là, peut-être qu'on peut parler de procès politiques à enjeu aujourd'hui, ce serait peut-être les procès contemporains, oui.
Et est-ce qu'il y a des avocats, aujourd'hui vous disiez, vous insistiez sur la formation de Joey Norman, que je citais aussi en introduction pour évoquer le procès Fernand Yvetot, et sur la formation de Jacques Vergès, vous dites qu'ils sont formés à politiser le prétoire. De quelle façon ils sont formés? Est-ce qu'aujourd'hui les avocats, il existe des avocats dans les nouvelles générations, dans des personnes encore en exercice, qui le sont encore formés à cet exercice-là?
À l'époque, c'est vraiment, déjà il faut préciser que c'est le contexte qui politise les avocats. Le contexte, hein, les années 30, très très difficile, l'antifascisme qui est un fort moment de politisation des avocats, l'occupation et puis la libération. Et évidemment la guerre d'Algérie. Donc ils sont politisés de fait par les événements qui vont les politiser, comme beaucoup de citoyennes et de citoyens. Ils sont aussi formés au sein du mouvement communiste. Par exemple, il y a trois cellules communistes au Palais de Paris. Vous avez des avocats plus anciens, je pense à quelqu'un qui s'appelle Marcel Villard, qui va former les plus jeunes à la libération en leur disant voilà, un procès politique c'est ça, un bon avocat politique doit faire une défense politique.
Mais avec des points de méthode par exemple?
Avec des points tout à fait concrets de méthode, il y a même des formations d'avocats communistes.
Hein, à politiser le prétoire.
À politiser les prétoires. Si vous lisez les mémoires de certains avocats, moi j'en ai rencontré beaucoup, qui me disaient on devait doublement apprendre, on devait apprendre le métier d'avocat normal, si je puis dire, hein. Préparer une conclusion, préparer sa plaidoirie, rechercher la jurisprudence. Mais aussi, on devait apprendre à politiser le procès. C'est-à-dire, par exemple, caser Lénine ou Marx dans sa plaidoirie, dire qu'il fallait dénoncer la justice de classe, les verdicts de guerre, et puis dénoncer les juges, et puis enfin politiser des causes. Le Vietnam libre, la paix, de manière très générale dans les années 50, puisqu'on a peur d'une troisième guerre mondiale, et puis l'indépendance de l'Algérie. Donc oui, il y avait vraiment une double formation pour ces avocats-là. Aujourd'hui, cette politisation-là des avocats, elle n'existe plus, il n'y a plus de formation. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des avocats engagés, heureusement. Il y a encore énormément d'avocats engagés dans des associations pour les étrangers.
C'est ce que j'allais dire, il me semble que, oui, voilà, c'est ça. Il me semble que c'est un terrain, par exemple, dans les différentes en effet, associations de défense pour l'accueil des réfugiés, mais aussi pour la demande du droit d'asile, pour
complètement.
De démarches juridiques qu'ils doivent faire. Là, il y a un engagement politique qui est d'une autre forme. Mais...
C'est ça. C'est-à-dire il n'y a plus d'avocats précisément spécialisés dans les procès politiques comme Vergès, par exemple, mais il y a énormément encore d'avocats engagés, notamment sur le droit des étrangers. Ce qui n'est pas du tout un hasard, puisque la répression les touche aussi. La répression s'est diversifiée et est venue toucher des populations qui n'ont plus, comme des militants, des ressources pour se défendre.
Et donc, on a l'inverse du procès monstre.
On est à l'inverse du procès monstre. C'est des répressions aujourd'hui qui sont invisibilisées pour pas que l'opinion s'affole et pour pas que ça soit dénoncé. Par exemple, les centres de rétention administrative, évidemment, ça va être évidemment moins politisé qu'un grand procès. Et là, il y a besoin d'avocats engagés et il y en a.
Et ce sont des procès politiques, d'une autre façon.
C'est une politisation de la répression. En tout cas, c'est une manière de s'engager auprès de populations plus défavorisées qui ont moins de ressources pour politiser eux-mêmes la répression qu'ils subissent.
La justice leur reproche d'avoir utilisé des employés municipaux à des fins personnelles. Patrick Balkany, l'ancien maire de Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, il est toujours député RPR, ainsi que son épouse Isabelle, qui elle est toujours vice-présidente du conseil général de ce même département, comparaissent aujourd'hui en correctionnel à Nanterre. Franck Herriot.
Tous les époux Balkany ont reconnu tous les faits au cours de leurs différents interrogatoires. Oui, ils ont eu recours à trois employés municipaux, l'un présenté comme un homme à tout faire à leur domicile de Levallois, un luxueux duplex de 500 mètres carrés. Les deux autres, un couple de gardiens directement recrutés dans l'heure pendant près de 10 ans dans leur propriété de Giverny. Ils avaient été licenciés entre les deux tours des élections municipales du mois de juin. Ils auraient coûté à eux trois quelques 5 millions de francs aux contribuables. Tout, Patrick Balkany a tout reconnu, il s'en est même expliqué. Quand vous travaillez 7 jours sur 7 pour votre ville, dit-il, que vous recevez des gens chez vous, il est normal qu'en plus de mes employés, des gens viennent les aider. Le dossier avait été jugé suffisamment épais et les aveux suffisamment clairs pour que le procureur de Nanterre décide début décembre de citer à comparaître directement les époux Balkany, c'est-à-dire sans l'ouverture d'une information judiciaire ni d'une instruction et donc sans mise en examen, ce qui a permis d'éviter une trop longue procédure.
On passe à un tout autre procès, on est en mars 1996, il est question du procès de Patrick et Isabelle Balkany. Est-ce qu'il y a là, dans le procès d'un homme et d'une femme politique, quelque chose qui a à voir avec ce qu'on a essayé de dire du procès politique, ou est-ce qu'on est vraiment complètement à un autre endroit ?
On est à un autre endroit. Alors il faut savoir que pendant très longtemps, les hommes et les femmes politiques étaient totalement protégés des procès. Notamment parce que les juges dépendaient d'eux pour l'avancement de leur carrière et donc il n'y avait pas de scandale politique. Là, on est plus dans le scandale politique, à mon avis, que dans le procès politique. Parce que, par exemple, dans les années, à partir des années 90, les magistrats deviennent de plus en plus dépendants. Socialement, ce ne sont plus les mêmes. Ils ressemblent de moins en moins aux hommes et aux femmes politiques, de par leurs origines sociales. Et donc, ils vont se sentir beaucoup plus libres à engager des poursuites judiciaires contre des hommes et des femmes politiques. Mais on a plus ici affaire à du scandale politique, à des luttes de compétition électorale et à des coups politiques. Le procès Balkany, le procès Clearstream, etc., ce sont des coups politiques aussi. Et ce qu'il faut dire, pour finir, c'est que la plupart des hommes et des femmes politiques aujourd'hui sont jugés par la Cour de justice de la République, qui est en fait une juridiction d'exception, mais qui n'a pas pour but de réprimer plus durement les hommes et les femmes politiques, mais de les protéger. Il y a l'immunité pénale des députés, par exemple, mais il y a aussi la Cour de justice de la République, qui est là pour en fait faire échapper les hommes et les femmes politiques à la sanction pénale et à la prison. Donc on est vraiment dans un système d'impunité quasi totale hein, des hommes et des femmes politiques aujourd'hui.
Et de rapport plutôt à des escroqueries ou voilà, à une forme de banditisme financier, où il n'y a pas du tout d'idéologie, il n'y a pas du tout de politique qui est mise en jeu dans ces procès-là.
Non, mais c'est peut-être aux médias et puis aux citoyennes et aux citoyens de dire qu'il y a un problème avec ces pratiques politiques-là et qu'il est temps d'en finir avec la corruption des élites.
Et politiser le procès.
Exactement.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Vous auriez pu finir avec votre... je me souviens même plus comment dire... un harmonica. Mais vous êtes venu avec une chanson de Bob Dylan et fameuse, Blowing in the Wind. Pourquoi ?
Parce que c'est une chanson qu'il a écrite pour les droits civiques. Et je pense que c'est un moment très important, là aussi, de politisation du prétoire, parce qu'il va y avoir énormément de procès politiques liés aux droits civiques, et puis ensuite sur la guerre du Vietnam. Donc je voulais finir sur cette belle chanson.
Et c'est une façon de politiser non plus le procès, mais la musique.
Tout à fait.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richoux.
14h49 sur France Culture à 7h06 chaque jour, procès et discussions se suspendent et laissent la parole à quelqu'un qui nous raconte un moment important pour lui. Cette semaine, c'est le musicien malien Balaké Sissoko qui se prête à l'exercice. Il raconte aujourd'hui sa première fois sur scène, 1978, il a 10 ans et c'est un enfant doué.
À l'époque 78, là, j'ai même pas 10 ans, ouais, 10, 11 ans. Ouais, quelque chose. Hein. Et c'est là, c'est un moment qui était très fort pour moi parce qu'au Mali, ils font chaque année une semaine régionale. Donc il y a plusieurs choses, du ballet, du théâtre, de l'ensemble instrumental. Donc et c'était un de mes premières aventures que là je commence. Et puis là, c'est la première fois que là j'ai monté sur scène, essayer d'avoir des contacts avec le public. Donc là, c'était un moment vraiment inoubliable pour moi. Donc c'était le moment que là j'ai quitté et à la maison parce que là c'était aussi de résidence. Là cette résidence là on est moi et puis mes compatriotes et puis mes cousins aussi qui s'appellent Toumani Diabaté. Donc une autre joueur de kora et puis là j'avais aussi un cousin aussi qui fait le percus donc qui s'appelle Abdoulaye Kanouté. Donc, on était les trois jeunes. Et parmi d'autres joueurs qui sont plus âgés que nous, quoi. Donc, là, c'était facile pour nous. Et tellement nous, on était jeunes, donc on est rapide de capter et bien les choses. Donc, pour nous, là, c'était facile de faire tout de suite. Donc, au fait, ils étaient jaloux, quoi. Donc, un tout petit peu. Parce qu'ils disaient qu'ils cherchent pendant tant à quelques minutes ou quoi, là, nous, on fait ça tout de suite et puis passer, quoi. Mais là, ils ont eu du courage de nous soutenir parce que, à l'époque, on jouait très bien. Donc, c'était très rare. À cet âge-là, la personne qui joue vraiment hyper bien, donc c'est rare. Mais maintenant, avec la mondialisation, les choses bien près, donc les jeunes, ils peuvent apprendre vite fait que nous. Parce que là, la 78, le Mali, là, c'était pas. Il n'y avait pas la télévision ni quoi, donc, t'as vu. Donc, là, c'était vraiment que le théâtre, on peut se servir, quoi. Donc, il n'y a pas une seule activité. Donc, si ce n'est pas la culture, vraiment, entre les jeunes, t'as vu. Donc, on joue, souvent, on joue, on fait le foot aussi, t'as vu. Donc, c'était un peu comme ça. C'est maintenant que là, j'ai compris la stress, mais tellement là, j'étais un peu. Là, je tremblais parce qu'autant du monde, jamais monté, parce qu'il y avait le président malien qui était là-bas à l'époque, et Moussa Traoré. Donc là, tellement il y avait des pressions, il nous a dit qu'il ne faut pas, parce qu'il y avait des gardes-corps partout, il y a la sécurité, tout. Donc là, c'était un peu ça. Quoi. Donc là, je tremblais. Bon, après le premier concert, donc là, c'était bon, quoi.
Goidian tadam mali wayo goidian tadam kala wayna har maga bundi se pende goidian tadam goidian tadam apriki je goidian tadam kala wayna har maga bundi se pende goidian tadam Goidian tadam Afriki je goidian tadam Ali wainda har baga bundi semende goidian tadam
Dani koi kai la bora se bendi goyo ni gonda. Dani koi se ga so la bora se bendi goyo ni gonda. Dani koi bama ko gandora se bendi goyo ni gonda. Dani koi se gula bora se mendi goyo ni gonda. Dani koi mabde la bora se mendi goyo ni gonda. Dani koi tonga wola bora se mendi goyo ni gonda. Dani koi tumbo tula bora se mendi goyo ni gonda. Yemma nanni yame se mendi se, yemma nanni yame goyidi se. Afrike je ogabundi goyo dam se mendi goyo ner gonda. Goidi dam tadam mali wayo, goidi yam tadam kalaharda way maga bundi se bendi goidi yam tadam. Se mendi se wa mananiya me goidi se. Wa mananiya me Afriki je wa mananiya me goyo dam. Goidi yon tadam Afriki je goidi yon tadam kala wainda harma bai kere se mendi goidi yon kuna. Goidi yon tadam Afriki je goidi yon tadam kala wainda harma bai kere se mendi goidi yon tadam.
Dalaké Sissoko évoquait à l'instant un concert de 1978, le premier où il a 10 ans. Et bien c'est aussi en 1978 qu'Alif Arka Touré sort ce morceau. Biennale, on pourra écouter Dalaké Sissoko par exemple le 31 mai au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il sera ensuite en tournée dans toute la France, dont le Festival des Suds à Arles. Merci beaucoup Vanessa Codaccioni d'avoir été avec nous. On peut citer le titre de votre livre « Justice d'exception, l'État face aux crimes politiques et terroristes ». On suivra tous ces procès qui se passent en ce moment et qui probablement nous donneront à réfléchir. C'est paru au CNRS Édition et vous êtes venu avec un autre, Punir les opposants PCF et procès politique 1947-1962, paru aussi chez CNRS Édition. Les nouvelles vagues, c'est terminé. Ça se réécoute, ça se podcast sur franceculture.fr. On peut aussi s'écrire et se lire via les sites Twitter et Facebook. Merci à Romain Debecq-Delièvre, Alice Ramon, Inès Duperron qui imaginent cette émission avec moi. Soumanina la réalise. Merci à Michael Simon et Romain Couturier de la discothèque. Aux manettes aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani, au droit d'auteur Cyril Svetojevic.